Chapitre 18. Des difficultés qu'éprouve un honnête homme à sortir de prison. L'écolier demeura un instant tout étourdi de son passage rapide de la lumière à l'obscurité. Où était-il ? Cependant, comme il ne pouvait demeurer éternellement à la même place et qu'à l'autre bout du cachot, c'est-à-dire à 15 pas à peu près devant lui, il apercevait une légère lueur filtrant à travers un soupirail, il allongea la jambe avec précaution dans l'intention instinctive de gagner l'endroit éclairé. Mais au second pas qu'il fit, le plancher sembla tout à coup se dérober sous ses pieds. Il descendit rapidement 3 ou 4 marches, et, sans doute cédant à l'impulsion donnée, il allait se briser la tête contre le mur, lorsque ses pieds s'embarrassèrent dans un obstacle qui le fit trébucher à l'instant même. Il en résulta que Jacques Aubry en fut quitte pour quelques contusions. L'obstacle qui avait, sans le vouloir, rendu ce service à l'écolier poussa un profond gémissement. « Pardon, » dit Jacques en se relevant et en ôtant poliment son bonnet, « pardon, car il paraît que j'ai marché sur quelqu'un ou sur quelque chose, inconvenance que je ne me serais jamais permise si j'y avais vu clair. « Vous avez marché, » dit une voix, « sur ce qui fut 60 ans un homme et sur ce qui, pour l'éternité, va devenir un cadavre. » Alors, dit Jacques, mon regret n'en est que plus grand de vous avoir dérangé au moment où vous vous occupez sans doute, comme doit le faire tout bon chrétien, de régler vos comptes avec Dieu. Mes comptes sont en règle, seigneur écolier. Ainsi soit-il, dit Aubry, et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Mais si cela ne vous fatigue pas trop pour le moment, mon cher compagnon, je dis mon cher parce que je présume que vous ne gardez aucun ressentiment du petit accident auquel je dois d'avoir fait votre connaissance, si cela ne vous fatigue pas trop, dis-je, apprenez-moi par quelle révélation vous avez pu savoir que j'étais écolier. Parce que j'ai vu à votre costume et surtout à l'encrier que vous portez pendu à votre ceinture, à l'endroit où un gentilhomme porte son poignard. Vous me dites que vous m'avez reconnu à mon costume, à l'encrier que je porte à ma ceinture, et j'ai beau regarder, moi, je ne vois pas mes deux mains. C'est possible, répondit le prisonnier, mais quand vous serez resté 15 ans comme moi dans un cachot, vos yeux y verront dans les ténèbres aussi bien qu'ils voyaient autrefois en plein jour. Mais vous avez donc commis quelque crime abominable, s'écria l'écolier, pour avoir été si impitoyablement puni. Je suis innocent, répondit le prisonnier. « Innocent !» s'écria Jacques épouvanté. « Ah ça, dis donc, mon cher compagnon, je vous ai déjà fait observer que ce n'était pas le moment de plaisanter. » Et je vous ai répondu que je ne plaisantais pas, mais c'est encore moins celui de mentir, attendu que la plaisanterie est un simple jeu de l'esprit qui n'offense ni le ciel ni la terre, tandis que le mensonge est un péché mortel qui compromet l'âme. Je n'ai jamais menti. Vous êtes innocent et vous êtes resté 15 ans en prison. 15 ans, plus ou moins, je vous l'ai dit. Ah, ça, s'écria Jacques, et moi qui suis innocent aussi. Que Dieu vous protège, alors, répondit le moribond. Comment, que Dieu me protège? Oui, car le coupable peut avoir l'espérance qu'on lui pardonnera, l'innocent, jamais. C'est plein de profondeur, mon ami, ce que vous dites là, mais savez-vous que ce n'est pas rassurant du tout? Je dis la vérité. « Mais enfin, reprit Jacques, enfin, voyons, vous avez bien quelques peccadilles à vous reprocher, de vous à moi, allons, contez-moi cela. » Et Jacques, qui commençait effectivement à distinguer les objets dans les ténèbres, prit un escabeau, alla le porter près du lit du mourant, et choisissant un endroit où la muraille faisait angle, il y plaça son siège, s'assit et s'établit dans cette espèce de fauteuil improvisé le plus confortablement qu'il put. « Ah, vous gardez le silence, mon cher ami, vous n'avez pas confiance en moi. Eh bien, je comprends cela. 15 ans de cachot ont dû vous rendre défiant. Eh bien, je me nomme Jacques Aubry, j'ai 22 ans, je suis écolier, vous l'avez vu, à ce que vous dites du moins. J'avais quelques motifs qui ne regardent que moi de me faire mettre au Châtelet. J'y suis depuis 10 minutes. J'ai eu connaissance d'y faire votre connaissance, voilà ma vie tout entière. Vous me connaissez comme je me connais. Parlez à votre tour, mon cher compagnon, je vous écoute. Et moi, dit le prisonnier, je suis Étienne Raymond. Étienne Raymond, murmura l'écolier, je ne connais pas cela. J'étais l'homme de confiance du connétable de Bourbon. Ah, et vous avez trahi l'État comme lui. Non, j'ai refusé de trahir mon maître. J'étais à Paris, à l'hôtel du connétable, tandis que celui-ci habitait son château de Bourbon-l'Archambault. Il m'envoya son capitaine des gardes quérir un paquet précieux dont il m'avait confié la garde. À peine l'eus-je remis et le messager fut-il parti que des soldats vinrent chercher ce paquet. Je niais savoir de quoi il s'agissait, ne voulant pas dire qu'on était venu chercher ce paquet afin qu'on ne poursuive pas le messager. On me jeta en prison. 3 jours et 3 nuits s'écoulèrent, et la 4e nuit, je fus réveillé par un visiteur. C'était Louise de Savoie elle-même. C'était la duchesse d'Angoulême en personne. C'était la régente de France, la mère du roi. Elle venait chercher ce paquet cacheté qui contenait toutes les lettres d'amour qu'elle avait écrites à celui qu'elle persécutait maintenant. Tiens, tiens, murmura Jacques Aubry, voilà une histoire qui ressemble à celle de la duchesse d'Étampes et d'Ascanio. Toutes les histoires de princesses, folles ou amoureuses, se ressemblent. Elle voulait donc ses lettres. En échange, elle me promettait la liberté et la richesse. Je répondis que je ne savais pas de quelles lettres elle voulait parler. Elle sortit furieuse. 1 an s'écoula, et puis je trouvai une lime dans mon pain. Mon noble maître, tout absent, tout fugitif qu'il était, essayait de m'aider, mais en m'évadant, je me cassai une jambe et fus repris. Un jour, au fond d'une cruche d'eau, je trouvai un sac d'or. C'était toujours mon maître qui se souvenait de son pauvre serviteur. Je corrompis un geôlier, ou plutôt le misérable fit semblant de se laisser corrompre. Il me trahit, ou on me traîna dans ce cachot. Depuis, je ne sais plus rien. Qu'est devenu mon noble duc? Qu'est devenu la cruelle duchesse? Ils sont morts tous les deux, dit l'écolier. Mort? Comment est mort mon noble duc? Il a été tué au siège de Rome, et probablement, Jacques Aubry allait ajouter, par un de ses amis, mais il se retint, pensant que cette circonstance pouvait bien mettre du froid entre lui et le vieillard. Jacques Aubry, comme on le sait, devenait prudent. Probablement, reprit le prisonnier, par un orfèvre nommé Benvenuto Cellini. Il y a 20 ans, j'eusse maudit le meurtrier. Aujourd'hui, je dis du fond de mon cœur que le meurtrier soit béni. Et l'autre? Et qui l'autre? Elle, ma persécutrice. Morte aussi, morte il y a 9 ans. Hein, c'est cela. Une nuit dans ma prison, j'ai vu une ombre agenouillée et priant. Je me suis écrié, l'ombre a disparu. C'était elle qui venait me demander pardon. Ainsi, vous croyez qu'à l'instant de la mort, elle l'aura pardonné? Je l'espère, pour le salut de son âme. Mais alors, on aurait dû vous mettre en liberté. Elle l'aura recommandé peut-être, mais je suis si peu de chose qu'au milieu de cette grande catastrophe, on m'aura oublié. Ainsi, vous, au moment de mourir, vous lui pardonnerez à votre tour? Soulevez-moi, jeune homme, et je prie pour tous deux. Et le moribond, soulevé par Jacques Aubry, confondit dans la même prière son protecteur et sa persécutrice, celui qui s'était souvenu dans son affection, celle qui ne l'avait jamais oublié dans sa haine, le connétable et la régente. Quand il eut prié, il poussa un soupir et retomba, il était évanoui. Jacques Aubry le crut mort, cependant il courut à la cruche, prit de l'eau dans le creux de sa main et la lui secoua sur le visage. Le mourant revint à lui. « Tu as bien fait de me secourir, jeune homme, dit le vieillard, et voilà ta récompense. »« Qu'est-ce que cela ? » demanda Aubry. « Un poignard, répondit le mourant. « Un poignard ? Et comment cette arme se trouve-t-elle entre vos mains ? » Un jour, en promenant mes mains sur le mur, je trouvai une pierre saillante qui remua doucement comme une dent dans son alvéole. À force de patience, je l'arrachai et je trouvai ce poignard. « Alors, dit Aubry, haletant, Alors, depuis près d'un an, je creuse le sol et je suis presque parvenu à pratiquer un trou au-dessous de la muraille par lequel un homme peut passer. Et qu'avez-vous fait de la terre? Je l'ai semée chaque soir sur le sol et je l'ai écrasée en marchant dessus. Et ce trou, où est-il? Sous mon lit, mais avant-hier j'ai compris que j'étais au bout de mes forces. Sois le bienvenu, jeune homme, tu m'aideras à mourir et tu seras mon héritier. Votre héritier, dit Aubry, étonné. Je te laisse ce poignard et ce trou, c'est la liberté peut-être. Mais ce trou, où donne-t-il? Je ne sais, je ne suis pas encore arrivé de l'autre côté, mais j'en suis bien proche, et avec quelques heures de travail, vous aurez fini mon œuvre. Maintenant, je voudrais bien un prêtre. Attendez, dit Aubry, il est impossible qu'il refuse cela à un mourant. Il s'élança vers la porte, qu'il frappa des pieds et des mains. Un guichetier descendit, qui, voyant l'état du vieillard, promit d'envoyer un prêtre. Effectivement, 10 minutes après, un prêtre parut, portant le saint viatique, précédé de deux sacristains. Ce fut un spectacle solennel que la confession de ce martyr. Ce fut le prêtre qui s'inclina et demanda la bénédiction du vieillard. Celui-ci sourit comme un élu, soupira, et mourut. Jacques Aubry se retrouva seul avec le mort. C'était une triste compagnie, et le joyeux écolier était envahi de sombres pensées. Il imaginait qu'Ascanio et lui pouvaient disparaître comme ce pauvre homme entraîné dans l'engrenage des passions des grands de ce monde. Et pour unique chance de salut, pour seule espérance, il lui restait l'héritage de ce trépassé, un vieux poignard qui déjà avait trompé l'attente de ses deux premiers maîtres. Jacques Aubry avait caché le poignard dans sa poitrine. Il porta convulsivement la main sur sa poignée pour s'assurer qu'il y était encore. En ce moment, la porte se rouvrit. On venait enlever le cadavre. Quand m'apporterez-vous à dîner? Demanda Jacques Aubry. J'ai faim. Dans 2 heures, répondit le guichetier. Et l'écolier se trouva seul dans son cachot. Aubry passa ses 2 heures sur son escabeau, sans bouger de sa place, tant sa pensée active tenait son corps en repos. À l'heure dite, le guichetier descendit, renouvela l'eau, changea le pain. C'était ce que, dans la langue du Châtelet, on appelait un dîner. L'écolier se rappelait ce que lui avait dit le mourant, c'est-à-dire que la porte de la prison ne s'ouvrait que toutes les 24 heures. Jacques Aubry se leva lentement, alla à la porte pour écouter si personne ne venait, puis, pour qu'on ne vît pas sur son pourpoint la trace de la terre et de la muraille, il se dévêtit de cette partie de son costume, tira le lit et trouva l'ouverture dont lui avait parlé son compagnon. Il se glissa comme un serpent dans cette étroite galerie qui pouvait avoir 8 pieds de profondeur et qui, après avoir plongé sous le mur, remontait de l'autre côté. Au premier coup de poignard que donna Aubry, il sentit effectivement au son que rendait le sol qu'il allait bientôt arriver à son but, qui était de s'ouvrir sur un lieu quelconque. Où cette issue donnerait-elle, s'il eût fallu être sorcier pour le dire? Il n'en continua pas moins son travail en faisant le moins de bruit possible. De temps en temps seulement, il sortait de son trou, comme faisait un mineur, pour semer par la chambre la terre qui eût fini par encombrer sa galerie. Puis il se glissait de nouveau dans son passage et se remettait à la besogne. Pendant qu'Aubry travaillait, Ascanio songeait tristement à Colombe. Lui aussi avait, comme nous l'avons dit, été conduit au Châtelet. Lui aussi, comme Aubry, avait été jeté dans un cachot. Cependant, soit hasard, soit recommandation de la duchesse, ce cachot était un peu moins nu et par conséquent un peu plus habitable que celui de l'écolier. Mais qu'importait à Ascanio un peu plus ou un peu moins de bien-être? Son cachot était toujours un cachot, sa captivité une séparation. Deux passions terribles veillaient à la porte de la prison des deux enfants: l'amour de Madame d'Étampes au seuil de celle d'Ascanio, l'ambition du comte d'Orbec au seuil de celle de Colombe. Aussi, une fois seul dans son cachot, Ascanio se trouva-t-il bien triste et bien abattu. Vers les 2 heures de l'après-midi, autant du moins que le prisonnier put en juger par le calcul qu'il fit du temps, il lui sembla entendre parler près de lui. C'était un murmure sourd, indistinct, dans lequel il était impossible de rien distinguer, mais causé évidemment par des paroles humaines. Ascanio écouta, se dirigea du côté vers lequel le bruit se faisait entendre. C'était à l'un des angles de son cachot. Il appliqua silencieusement son oreille à la muraille et au sol. C'était de dessous la terre que le bruit semblait venir. Ascanio avait des voisins qui n'étaient évidemment séparés de lui que par un mur étroit ou par un mince plancher. Au bout de 2 heures à peu près, cette rumeur cessa et tout rentra dans l'ordre. Et puis vers la nuit, le bruit recommença, mais cette fois il avait changé de nature. Ce n'était plus celui que font 2 personnes en parlant, mais le retentissement de coups sourds et pressés, comme ceux que frappe un tailleur de pierre. Ce bruit venait du reste du même endroit, ne s'interrompait pas une seconde et allait toujours se rapprochant. Si préoccupé que fût Ascanio de ses propres idées, ce bruit ne lui en parut pas moins mériter quelque attention. Le bruit continuait. Comme ce n'était pas l'heure d'un travail ordinaire, il était évident que c'était celui de quelque prisonnier qui travaillait à son évasion. Ascanio sourit tristement à cette idée qu'arrivait jusqu'à lui le malheureux qui, un instant peut-être, se serait cru en liberté, n'aurait fait que changer de prison. Enfin, le bruit se rapprocha tellement qu'Ascanio courut à sa lampe, la prit et revint avec elle vers l'endroit où il se faisait entendre. Presque au même instant, le sol se souleva dans l'angle le plus éloigné du cachot et la boursouflure, en se fendant, donna passage à une tête humaine. Ascanio jeta un cri d'étonnement, puis de joie, auquel répondit un autre cri, non moins accentué. Cette tête était celle de Jacques Aubry. Un instant après, grâce à l'aide qu'Ascanio donna à celui qui venait lui rendre visite d'une façon si étrange et si inopinée, les 2 amis étaient dans les bras l'un de l'autre. On devine que les premières questions et les premières réponses furent quelque peu incohérentes, mais enfin, à force d'échanger des mots sans suite, ils parvinrent à mettre un peu d'ordre dans leur esprit et à jeter un peu de clarté sur les événements. Ascanio, d'ailleurs, n'avait presque rien à dire, tandis qu'au contraire, il avait tout à apprendre. Alors Aubry lui raconta tout. « Maintenant, dit Jacques Aubry, écoute-moi, Ascanio, il n'y a pas de temps à perdre. » « Mais, dit Ascanio, avant toute chose, parle-moi de Colombe. Où est Colombe ?»« Colombe, je n'en sais rien, chez Madame d'Étampes, je crois. »« Chez Madame d'Étampes, s'écria Ascanio, sa rivale. »« Alors c'est donc vrai ce qu'on disait de l'amour de la duchesse pour toi ?» Ascanio rougit et balbutia quelques paroles inintelligibles. « Oh, il ne faut pas rougir pour cela !» s'écria Aubry. « Peste, une duchesse, et une duchesse qui est la maîtresse du roi, ce n'est pas à moi qu'une pareille bonne fortune arriverait. Mais voyons, revenons à notre affaire. »« Oui, dit Ascanio, revenons à Colombe. Ben, »« Il s'agit bien de Colombe, il s'agit d'une lettre. »« Quelle lettre ?»« D'une lettre que la duchesse d'Étampes t'a écrite. »« Et qui t'a dit que je possédais une lettre de la duchesse d'Étampes ?» Benvenuto Cellini. Pourquoi t'a-t-il dit cela? Parce que cette lettre il la lui faut, parce que cette lettre est nécessaire, parce que je me suis engagé à la lui rapporter, parce que tout ce que j'ai fait, enfin, c'était pour avoir cette lettre. Mais que veut faire de cette lettre Benvenuto? Demanda Ascanio. « Ma foi, je n'en sais rien, cela ne me regarde pas. Il m'a dit, il me faut cette lettre, je lui ai dit, c'est bon, je l'aurai. Je me suis fait mettre en prison pour l'avoir. Et voilà, donne-la-moi et je me charge de la faire passer à Benvenuto. Eh bien, qu'as-tu donc ?» Cette question était motivée par le rembrunissement de la figure d'Ascanio. « J'ai, mon pauvre Aubry, dit-il, que tu as perdu ta peine. » « Comment cela ? S'écria Jacques Aubry. Cette lettre, n'aurais-tu plus cette lettre ?» « Elle est là, » dit Ascanio, en mettant la main sur la poche de son pourpoint. « Ah, à la bonne heure. Alors donne-la-moi que je la porte à Benvenuto. »« Cette lettre ne me quittera point, Jacques. »« Et pourquoi cela ?»« Parce que j'ignore ce qu'en veut faire Benvenuto. »« Mais il veut s'en servir pour te sauver. »« Et pour perdre la duchesse d'Étampes, peut-être. »« Aubry, je ne perdrai pas une femme. » Mais cette femme veut te perdre, toi, cette femme te déteste. Non, je me trompe, cette femme t'adore. Et tu veux qu'en échange de ce sentiment... Mais c'est exactement comme si elle te haïssait, puisque toi tu ne l'aimes pas. D'ailleurs, c'est elle qui a tout fait. Comment, qui a tout fait? C'est elle qui t'a fait arrêter, c'est elle qui a enlevé Colombe. Qui te l'a dit? Personne, mais qui veux-tu que ce soit? Mais le prévôt, mais le comte d'Orbec, mais Marmagne, à qui tu avoues que tu as tout dit. Ascanio, Ascanio, s'écria Jacques, désespéré, tu te perds. J'aime mieux me perdre que de commettre une lâche action, Aubry. Mais ce n'est pas une lâche action, puisque c'est Benvenuto qui se charge de l'accomplir. Écoute, Aubry, dit Ascanio, et ne me garde pas rancune de ce que je vais te dire. Si c'était Benvenuto qui fût là, à ta place, et si c'était lui qui me dit « C'est Madame d'Étampes, ton ennemi, qui t'a fait arrêter, qui a enlevé Colombe, qui la tient en son pouvoir, qui veut forcer sa volonté, je ne puis sauver Colombe qu'à l'aide de cette lettre, je lui ferai jurer qu'il ne la montrerait pas au roi, et je la lui donnerai. » Mais Benvenuto n'est point ici, je n'ai aucune certitude que la persécution me vienne de la duchesse. Cette lettre serait mal placée entre tes mains, Aubry. Pardonne-moi, mais tu avoues toi-même que tu es un franc et cervelé. Je te jure, Ascanio, que la journée que je viens de passer m'a vieilli de 10 années. Cette lettre, tu peux la perdre ou en faire, dans un but excellent, je le sais, un usage inconsidéré, Aubry. Cette lettre restera où elle l'est. « Mais mon ami, s'écria Jacques Aubry, songe bien, Benvenuto l'a dit, que cette lettre peut te sauver. »« Benvenuto me sauvera sans cela, Aubry. Benvenuto a la parole du roi, qui lui accordera une grâce le jour où son Jupiter sera fondu. Eh bien, quand tu as cru que Benvenuto devenait fou parce qu'il criait à la fonte, Benvenuto commençait à me sauver. »« Et si la fonte allait manquer, dit Aubry, il n'y a pas de danger. » reprit Ascanio en souriant. Mais cela arrive aux plus habiles fondeurs de France, à ce qu'on assure. Les plus habiles fondeurs de France ne sont que des écoliers auprès de Benvenuto. Mais combien de temps peut durer cette fonte? 3 jours. Et pour mettre la statue sous les yeux du roi, combien de temps faut-il? 3 autres jours encore. 6 ou 7 en tout, à ce que je vois, et si d'ici 6 ou 7 jours, Madame d'Étampes force Colombe à épouser Dorbec? Madame d'Étampes n'a aucun droit sur Colombe. Colombe résistera. Oui, mais le prévôt a des droits sur Colombe, comme sa fille. Le roi François Ier a des droits sur Colombe comme sa sujette, et si le prévôt ordonne, et si le roi ordonne... Ascanio pâlit affreusement. Si, lorsque Benvenuto demandera ta liberté, Colombe, déjà la femme d'un autre, dit, que feras-tu de la liberté? Ascanio passa une main sur son front pour essuyer la sueur qui faisait poindre les paroles de l'écolier, tandis que son autre main cherchait dans sa poche la lettre libératrice. Mais au moment où Aubry croyait qu'il allait céder, il secoua la tête comme pour en chasser toute résolution. Non, dit-il, non, à Benvenuto seul. Parlons d'autre chose. Et il prononça ces paroles d'un ton qui indiquait qu'il était, pour le moment du moins, parfaitement inutile d'insister. Alors, dit Aubry, paraissant prendre intérieurement une résolution importante, alors, mon ami, si c'est pour parler d'autre chose, nous en parlerons aussi bien demain matin ou demain dans la journée, attendu que j'ai bien peur que nous ne soyons ici pour quelque temps. Quant à moi, je t'avoue que comme je suis assez fatigué de mes tribulations de la journée et de mon travail de la nuit, je ne serais point fâché de me reposer un peu. Ainsi donc, reste ici, je retourne chez moi. Quand tu auras envie de me voir, tu appelleras. En attendant, mets cette natte sur le trou que j'ai fait, afin qu'on ne coupe pas nos communications. Bonne nuit. Et comme la nuit porte conseil, j'espère que je te trouverai plus raisonnable demain matin. Et à ces mots, sans rien vouloir écouter des observations d'Ascanio qui essayait de le retenir, Jacques Aubry rentra la tête la première dans son couloir et regagna en rampant son cachot. Quant à Ascanio, en exécution du conseil que lui avait donné son ami, à peine les jambes de l'écolier eurent-elles disparu à leur tour qu'il traîna la natte dans l'angle de sa prison. La voie de communication qui venait de s'établir entre les deux cachots disparut donc entièrement. Puis il jeta son pourpoint sur une des deux chaises qui, avec la table et la lampe, composait son ameublement, s'étendit sur son lit et, tout bourrelé d'inquiétude qu'il était, s'endormit bientôt, la fatigue du corps l'emportant sur les tourments de l'esprit. Quant à Aubry, au lieu de suivre l'exemple d'Ascanio, quoiqu'il eût au moins autant besoin que lui de sommeil, il se contenta de s'asseoir sur son escabeau et se mit à réfléchir profondément, ce qui, comme le sait le lecteur, était si parfaitement contre ses habitudes qu'il était évident qu'il méditait quelque grand coup. L'immobilité de l'écolier dura 1 quart d'heure à peu près, après quoi il se leva lentement et, du pas d'un homme dont toutes les irrésolutions sont fixées, il s'avança vers son trou, où il se glissa de nouveau, mais avec tant de précaution, et en observant un si profond silence cette fois, qu'au moment où, arrivé de l'autre côté, il souleva la natte avec la tête, il s'aperçut avec joie que l'opération qu'il venait d'accomplir n'avait pas réveillé son ami. C'était tout ce que demandait l'écolier. Aussi, avec des précautions plus grandes encore que celles qu'il avait prises jusque-là, il sortit lentement de sa galerie souterraine, s'approcha en retenant son souffle de la chaise où était déposé le pourpoint d'Ascanio, et l'œil fixé sur le dormeur, l'oreille tendue à tout bruit, prit dans la poche la précieuse lettre tant ambitionnée par Cellini et mit dans l'enveloppe un simple billet de Gervaise qu'il plia exactement de la même façon que l'était la lettre de la duchesse, pensant, tant qu'Ascanio ne l'ouvrirait pas, lui faire croire que c'était toujours la missive de la belle Anne Dely qui était restée en sa possession. Puis, avec le même silence, il regagna la natte, la souleva, se glissa de nouveau dans le trou et disparut, comme les fantômes qui s'abîment dans les trappes de l'opéra. Il était temps, car à peine rentré dans son cachot, il entendit la porte de celui d'Ascanio roulant sur ses gonds et la voix de son ami qui criait avec l'accent d'un homme qui s'éveille en sursaut « Et qui va là ?»« Moi, » répondit une voix douce, « ne craignez rien, c'est une amie. » Ascanio, à moitié vêtu, comme nous l'avons dit, se souleva à l'accent de cette voix qu'il croyait reconnaître, et à la lueur de sa lampe il vit une femme voilée. Cette femme s'approcha lentement de lui et leva son voile. Il ne s'était pas trompé, c'était Madame d'Étampes. Il y avait sur le visage mobile de la belle Anne Dely un mélange de compassion et de tristesse auquel Ascanio se laissa prendre et qui le confirma, avant même que la duchesse eût ouvert la bouche, dans l'idée qu'elle était entièrement innocente de la catastrophe dont lui et Colombe venaient d'être victimes. « Vous ici, Ascanio, » dit-elle d'une voix mélodieuse, « vous à qui je voulais donner des palais et que je retrouve dans une prison ?»« Ah, madame, » s'écria le jeune homme, « il est donc vrai que vous êtes étrangère à la persécution qui nous atteint ?»« Tiens, Ascanio, vous ne m'aimez pas, je le sais, mais au moins chez vous, la haine n'est point de l'injustice. Vous aviez raison, Ascanio, non seulement je n'ai rien conduit, mais encore j'ignorais tout. C'est le prévôt, monsieur d'Estourville, qui, ayant tout appris, je ne sais comment, est venu tout dire au roi et qui a obtenu de lui l'ordre de vous arrêter et de reprendre Colombe. » « Et Colombe est chez son père ?» demanda vivement Ascanio. « Non, dit la duchesse, Colombe est chez moi. »« Madame, s'écria Ascanio en joignant les mains, Dieu vous a donné le pouvoir de nous réunir. Soyez grande et généreuse jusqu'au bout, madame, et faites le bonheur de deux enfants qui vous aimeront et qui vous béniront toute leur vie. » « Ah bien oui, dit la duchesse, je suis vaincue, Ascanio, oui, je suis prête à vous protéger, à vous défendre, mais, hélas, peut-être, à cette heure est-il trop tard. »« Trop tard, que voulez-vous dire ? » s'écria Ascanio. « Peut-être, à cette heure, Ascanio, peut-être suis-je perdu moi-même. »« Perdu, et pourquoi cela, madame ? » ?»« Pour vous avoir aimé. »« Pour m'avoir aimé, vous, perdu à cause de moi ?» Oui, imprudente que je suis, oui, perdue à cause de vous, perdue pour vous avoir écrit. Comment cela, je ne vous comprends pas, madame? Vous ne comprenez pas que le prévôt, muni de l'ordre du roi, a ordonné la perquisition générale de l'hôtel de Nesle? Vous ne comprenez pas que cette persécution, dans laquelle on cherche toutes les preuves de votre amour avec Colombe, s'exercera principalement dans votre chambre? « Eh bien, » demanda Ascanio, impatient. « Eh bien, » continua la duchesse, « si dans votre chambre on retrouve cette lettre que dans un moment de délire je vous ai écrite, si cette lettre est reconnue pour être de moi, si cette lettre est mise sous les yeux du roi, que je trompais déjà et que bientôt je voulais trahir pour vous, ne comprenez-vous pas que mon pouvoir tombe à l'instant même? Ne comprenez-vous pas que je ne puis plus rien pour vous ni pour Colombe? Ne comprenez-vous pas enfin que je suis perdu? Oh, s'écria Ascanio, tranquillisez-vous, madame, il n'y a pas de danger. Cette lettre est ici, elle est là, elle ne m'a point quitté. La duchesse respira et sa figure passa de l'expression de l'anxiété à celle de la joie. « Elle ne vous a pas quitté, Ascanio ? » s'écria-t-elle à son tour. « Elle ne vous a pas quitté ? Et à quel sentiment, dites, dois-je que cette heureuse lettre ne vous ait pas quitté ?»« À la prudence, madame, » murmura Ascanio. La prudence. Ah, je me trompais donc encore, mon Dieu, mon Dieu. Je devrais cependant être bien certaine, bien convaincue. Ah, la prudence. Eh bien, alors, ajouta-t-elle, en ayant l'air de faire un effort sur elle-même, puisque je n'ai à vous remercier que de votre prudence, Ascanio, croyez-vous bien prudent, dites-moi, de garder ici sur vous, quand on peut descendre à tout moment dans votre prison, quand on peut vous fouiller de force? Trouvez-vous bien prudent, dis-je, de garder une lettre qui doit, si elle est connue, mettre hors d'état de vous protéger, vous et Colombe, la seule personne qui puisse vous sauver? Madame, dit Ascanio, de sa voix douce et avec cette teinte de mélancolie que ressentent toujours les cœurs purs lorsqu'ils sont forcés de douter, j'ignore si l'intention de nous sauver, Colombe et moi, est au fond de votre cœur comme elle est sur vos lèvres. J'ignore si le désir seul de revoir cette lettre qui, ainsi que vous l'avez dit, peut vous perdre, ne vous a pas conduite ici. J'ignore enfin si, une fois que vous la tiendrez en votre pouvoir, de protectrice que vous vous faites, vous ne nous redeviendrez pas ennemis. Mais ce que je sais, madame, c'est que cette lettre est à vous, c'est qu'elle vous appartient, c'est que du moment où vous venez la réclamer, je n'ai pas, moi, le droit de la retenir. Ascanio se leva, alla droit à la chaise sur laquelle était son pourpoint, fouilla dans sa poche et en tirant une lettre, dont la duchesse, au premier coup d'œil, reconnut l'enveloppe. Voilà, dit-elle, madame, ce papier tant désiré par vous, et qui, sans pouvoir m'être utile, peut vous être nuisible. Reprenez-le, déchirez-le, anéantissez-le, j'ai fait ce que je dois, vous ferez, vous, ce que vous voudrez. Ah, vous êtes vraiment un noble cœur, Ascanio, s'écria la duchesse emportée par ce premier mouvement qu'on retrouve parfois encore, même au fond des âmes les plus corrompues. On vient, madame, prenez garde, s'écria Ascanio. Ah, vous avez raison, dit la duchesse. Et au bruit des pas qui effectivement se rapprochaient, elle étendit vivement la main vers la lampe, présentant le papier à la flamme qui s'y attacha et le dévora en un instant. La duchesse ne le lâcha cependant que lorsque le feu fut près d'atteindre ses doigts, et la lettre, aux trois quarts consumée, descendit en tournoyant. Lorsqu'elle toucha le sol, elle était complètement réduite en cendres. Cependant, sur ces cendres, la duchesse mit encore le pied. En ce moment, le prévôt parut sur la porte. On me prévient que vous êtes ici, madame, dit-il d'un air inquiet en regardant alternativement Ascanio et la duchesse, et je m'empresse de descendre pour me mettre à vos ordres. Avez-vous en quelque chose besoin de moi ou des gens qui sont sous mes ordres? Non, messire, dit la duchesse, ne pouvant dissimuler le sentiment de profonde joie qui débordait de son cœur sur son visage. Non, mais je ne vous en rends pas moins grâce de votre empressement et de votre bonne volonté. J'étais venu seulement pour interroger ce jeune homme que vous avez fait arrêter, et pour m'assurer qu'il était véritablement aussi coupable qu'on le disait. Et le résultat de cet examen, demanda le prévôt, d'un ton où il ne pouvait s'empêcher de laisser percer une légère teinte d'ironie. Et Cascagno est moins coupable que je ne le pensais. Je vous recommande donc, messire, les plus grands soins pour lui. En attendant, le pauvre enfant est bien mal logé. Ne pourriez-vous lui donner une autre chambre? On y avisera dès demain, madame, car vous le savez, pour moi, vos désirs sont des ordres. Avez-vous autre chose à commander et voulez-vous continuer votre interrogatoire? Non, messire, répondit Anne, je sais tout ce que je désirais savoir. À ces mots, la duchesse sortit du cachot, en jetant à Ascanio un dernier coup d'œil mêlé de reconnaissance et de passion. Le prévôt la suivit et la porte se referma derrière eux. Pardieu, murmura Jacques Aubry, qui n'avait pas perdu un mot de la conversation de la duchesse et d'Ascanio, pardieu, il était temps. En effet, le premier soin de Marmagne, en revenant à lui, avait été de faire dire à la duchesse qu'il venait de recevoir une blessure qui pourrait bien être mortelle, mais qu'avant de mourir, il voudrait lui révéler un secret de la plus haute importance pour elle. À cet effet, la duchesse était accourue. Marmagne lui avait dit alors qu'il avait été attaqué et blessé par un certain écolier nommé Jacques Aubry, lequel cherchait à entrer au Châtelet pour pénétrer jusqu'à Ascanio et rapporter à Cellini une lettre dont Ascanio était porteur. À ces mots, la duchesse avait tout compris. Comme l'avait dit Jacques Aubry, il était temps. Mais la moitié de la besogne seulement était faite, et certes la moitié la plus difficile restait à faire. L'écolier tenait sa lettre, qui avait si bien manqué d'être anéantie à jamais, mais pour que cette lettre eût sa valeur réelle, ce n'était pas entre les mains de Jacques qu'elle devait être, c'était entre les mains de Cellini. Or Jacques Aubry était prisonnier, bien prisonnier, et il avait appris de son prédécesseur que ce n'était pas chose facile que de sortir du Châtelet une fois qu'on y est entré. Jacques Aubry était donc, nous sommes forcés d'en convenir, dans le plus cruel embarras. Au point du jour, il poussa un soupir plus lamentable encore qu'aucun de ceux qu'il avait poussé jusque-là, et se jeta sur son lit comme un homme complètement abattu. À peine s'était-il couché qu'il entendit des pas dans l'escalier. Ses pas s'approchèrent, la clé grinça dans la serrure, les verrous crièrent, la porte tourna sur ses gonds, et deux hommes de justice apparurent sur le seuil. L'un était le lieutenant criminel, l'autre son greffier. Le désagrément de la visite fut tempéré par le plaisir qu'eut Jacques Aubry de reconnaître deux anciennes connaissances. « Ah, mon jeune homme, dit le lieutenant criminel en reconnaissant Jacques Aubry, c'est donc encore vous que je retrouve, et vous êtes donc parvenu à vous faire mettre au Châtelet. Tutieu, quel gaillard vous faites! Vous séduisez les jeunes filles, et vous perforez les jeunes seigneurs, mais prenez-y garde, cette fois-ci, peste, la vie d'un gentilhomme, c'est plus cher que l'honneur d'une grisette, et vous n'en serez pas quitte pour 20 sous parisis. » Si formidables que fussent les paroles du juge, le ton avec lequel elles étaient prononcées rassurait quelque peu le prisonnier. Cet homme à la face joviale entre les mains duquel il avait eu la chance de tomber paraissait si bon garçon qu'il semblait que rien de fatal ne pût venir de lui. Il est vrai de dire qu'il n'en était pas de même de son greffier, qui, à chaque menace que faisait le lieutenant criminel, secouait approbativement la tête. L'interrogatoire commença. Jacques Aubry ne cacha rien. Il déclara qu'ayant reconnu dans le vicomte de Marmagne un gentilhomme qu'il avait trahi plusieurs fois, il avait sauté sur l'épée d'un page et l'avait défié. Marmagne avait accepté le défi, le vicomte et l'écolier avaient ferraillé un instant, et puis le vicomte était tombé. Il n'en savait pas davantage. « Vous n'en savez pas davantage, vous n'en savez pas davantage, » murmurait le juge, tout en dictant l'interrogatoire au greffier. « Peste, il y en a bien assez comme cela, ce me semble, et votre affaire est claire comme le jour, d'autant plus que le vicomte de Marmagne est un des grands favoris de Madame d'Étampes. Aussi, il paraît qu'elle vous a recommandé au prône, mon brave garçon. »« Diable, » fit l'écolier, qui commençait à s'inquiéter. « Dites-moi donc, monsieur le juge, est-ce que l'affaire est aussi mauvaise que vous le dites ?»« Plus mauvaise, mon cher ami, plus mauvaise, attendu que je n'ai pas l'habitude d'intimider mes clients, mais je vous préviens de cela afin que si vous avez quelques dispositions à prendre... » « Des dispositions à prendre ?» s'écria l'écolier. « dis donc, monsieur le lieutenant criminel, est-ce que vous croyez qu'il y a danger d'existence ?» Certainement, dit le juge, certainement. Comment? Vous attaquez en pleine rue un gentilhomme, vous le forcez à se battre, vous lui passez votre épée au travers du corps, et vous demandez s'il y a danger d'existence? Oui, mon cher ami, oui, et très grand danger même. Mais enfin, ces rencontres-là arrivent tous les jours, et je ne vois pas qu'on poursuive bien les coupables. « Oui, entre gentilshommes, mon jeune ami. Oh, quand il plaît à deux gentilshommes de se couper la gorge, c'est un droit de leur condition, et le roi n'a rien à y voir. Mais s'il allait prendre un jour l'idée aux vilains de se battre avec les gentilshommes, comme les vilains sont 20 fois plus nombreux que les gentilshommes, il n'y aurait bientôt plus de gentilshommes, ce qui serait dommage. Et combien de jours croyez-vous que mon procès puisse durer ?» « Oh, 5 à 6 jours à peu près. »« Comment ?» s'écria l'écolier. « 5 à 6 jours, voilà tout. »« Ben, sans doute, le fait est clair, il y a un homme qui se meurt, vous avouez que vous l'avez tué, la justice est satisfaite. »« Cependant, » ajouta le juge en donnant à son visage un caractère plus profond encore de mansuétude, « si 2 ou 3 jours de plus peuvent vous être agréables. »« Très agréables. » « Eh bien, nous allongerons les écritures et nous gagnerons du temps. Vous êtes bon garçon, au fond, et je serai enchanté de faire quelque chose pour vous. »« Merci, » dit l'écolier. Et maintenant, reprit le juge en se levant, avez-vous quelque chose à me demander? Je voudrais voir un prêtre, est-ce impossible? Non pas, vous êtes dans votre droit. Eh bien alors, monsieur le juge, priez qu'on m'en envoie un. Je vais m'acquitter de votre commission. Sans rancune, mon jeune ami. Comment donc, au contraire, bien reconnaissant. Aubry, resté seul, retomba dans des réflexions encore plus profondes qu'auparavant, et, l'on en conviendra, il y avait dans son entretien avec le lieutenant criminel ample matière à réflexion. Il méditait ainsi depuis une demi-heure à peu près, lorsque la porte de son cachot s'ouvrit de nouveau et que le porte-clés parut sur le seuil. « Est-ce vous qui avez fait venir un prêtre ? » demanda-t-il en grommelant. « Certainement, c'est moi, dit Jacques. » Le diable m'emporte. Puis il referma la porte en grommelant toujours, laissant en tête à tête le nouveau venu avec le prisonnier. C'est vous qui m'avez fait demander, mon fils? Demanda le prêtre. Oui, mon père, répondit l'écolier. Vous désirez vous confesser? Non, pas précisément. Je désire m'entretenir avec vous d'un simple cas de conscience. « Dites, mon fils, répondit le prêtre en s'asseyant sur l'escabeau, et si mes faibles lumières peuvent vous guider. Justement, c'est pour vous demander conseil que je vous ai fait venir. Je vous écoute. Mon père, dit Aubry, je suis un grand pécheur. Hélas, fit le prêtre, heureux du moins celui qui le reconnaît. Mais ce n'est pas le tout. Non seulement je suis un grand pécheur, comme je vous le disais, mais encore je fais tomber les autres dans le péché. Y a-t-il réparation aux dommages que vous avez commis? Je le pense, mon père, je le pense. Celle que j'ai entraînée avec moi dans l'abîme était une jeune fille innocente. Alors, vous l'avez séduite? Demanda le prêtre. Séduite, oui, mon père, c'est le mot. Et vous voulez réparer votre faute? J'en ai l'intention, du moins. Il n'y a qu'une façon de le faire. Je le sais bien, c'est pour cela que j'ai été si longtemps indécis. S'il y en avait eu deux, j'eusse choisi l'autre. Alors vous désirez l'épouser? Un instant, non, je ne veux pas mentir. Non, mon père, je ne désire pas, je me résigne. Mieux vaudrait un sentiment plus pur, plus dévoué. Que voulez-vous, mon père, il y a des gens qui sont nés pour épouser et d'autres pour rester garçons. Le célibat était ma vocation à moi, et s'il ne fallait, je vous le jure, rien moins que la circonstance où je me trouve. Eh bien, mon fils, comme vous pourriez revenir sur vos bonnes intentions, je vous dirais que le plus tôt serait le mieux. Et quand ce plus tôt peut-il être? Demanda Aubry. Dame, dit le prêtre, comme c'est un mariage in extremis, on obtiendra toutes les dispenses nécessaires, et je pense bien qu'après-demain... « Va donc pour après-demain, » fit l'écolier en poussant un soupir. « Mais elle, la jeune fille, eh bien, consentira-t-elle? À quoi? Au mariage? Pardieu, si elle consentira, avec reconnaissance, on ne lui fait pas de ces propositions-là tous les jours. Alors il n'y aura aucun empêchement, aucun. Les parents de votre côté, absents. Du sien, inconnu. Son nom? Gervaise Perrette Popinot. Me chargez-vous de lui porter cette nouvelle? Ah, si vous voulez prendre cette peine, mon père, je vous en serai véritablement reconnaissant. Aujourd'hui même, elle sera prévenue. Dites-moi donc, mon père, est-ce que vous pourriez, par exemple, lui remettre une lettre? Non, mon fils, nous autres qui sommes dévoués au service des prisonniers, nous avons fait le serment de ne remettre aucun message de leur part à personne qu'après leur mort. Ce moment venu, tout ce que vous désirerez. Merci, ce serait inutile. Tenons-nous-en donc au mariage, murmura Aubry. Vous n'avez rien d'autre à me dire? Rien, sinon que si l'on doutait de la vérité de ce que j'avance, et que si l'on faisait quelque difficulté à m'accorder ma demande, on trouverait à l'appui chez monsieur le lieutenant criminel une plainte de la dite Gervaise Perrette Popinot, laquelle prouverait à la justice que je n'avance rien qui ne soit l'exacte vérité. Rapportez-vous-en à moi pour aplanir toutes les difficultés, répondit le prêtre, qui avait cru remarquer que, dans l'action qu'il se proposait d'accomplir, Jacques Aubry ne procédait pas d'enthousiasme, mais cédait à une nécessité. Et d'ici à deux jours, D'ici à 2 jours, vous aurez rendu l'honneur à celle à qui vous l'avez enlevé. Hélas, murmura l'écolier en poussant un profond soupir. Bien, mon fils, bien, dit le prêtre, plus un sacrifice nous coûte, plus il est agréable à Dieu. Ventre marron, s'écria l'écolier, en ce cas, Dieu doit m'être bien reconnaissant. Allez, mon père, allez. En effet, ce n'était pas sans une vive opposition à lui-même que Jacques Aubry avait pris une pareille résolution. Comme il l'avait dit à Gervaise, il avait hérité de l'antipathie paternelle pour le mariage, et il ne lui avait rien moins fallu que son amitié pour Ascanio, que l'idée que c'était lui qui l'avait perdu, le tout corroboré des plus beaux exemples de dévouement que l'Antiquité avait pu lui fournir, pour l'amener au degré d'abnégation auquel il était arrivé. Jacques Aubry resta donc dans son repos et dans son engourdissement jusqu'au moment où, après avoir entendu du bruit dans le cachot d'Ascanio, il crut que ce bruit, causé par l'entrée du geôlier qui lui apportait son déjeuner, était une garantie de tranquillité pour plusieurs heures. En conséquence, il laissa s'écouler quelques minutes, après lesquelles, ayant reconnu qu'aucun bruit ne troublait le silence, il s'engagea dans son couloir, franchit comme d'habitude la distance et souleva la natte avec sa tête. Le cachot d'Ascanio était plongé dans l'obscurité la plus profonde. Aubry appela à demi-voix, personne ne répondit, le cachot était parfaitement solitaire. Le premier mouvement d'Aubry fut un sentiment de joie. Ascanio était libre, et si Ascanio était libre, il n'avait pas besoin, lui... Mais presque aussitôt, il se rappela la recommandation qu'il avait entendue la veille de mettre Ascanio dans une prison plus commode. On avait eu égard à la recommandation de Madame la Duchesse d'Étampes. Ce bruit que venait d'entendre l'écolier, c'était le déménagement de son ami. Il laissa retomber la natte et rentra à reculons dans son cachot. Toute consolation lui était enlevée, même la présence de l'ami pour lequel il se sacrifiait. Il ne lui restait plus d'autre ressource que de réfléchir. Mais Jacques Aubry avait déjà réfléchi si longtemps, et ses réflexions avaient eu un si douloureux résultat qu'il préféra dormir. Il se jeta donc sur son lit, et comme il était fort en retard du côté du sommeil, il ne tarda point, malgré la préoccupation d'esprit où il se trouvait, à s'endormir profondément. Au milieu de la nuit, et comme Jacques Aubry était dans son premier sommeil, il entendit sa porte rouler sur ses gonds et se réveilla en sursaut. Si bien que dorment les prisonniers, le bruit d'une porte qui s'ouvre les réveille toujours. L'écolier se dressa sur son séant. « Levez-vous et habillez-vous, » dit la voix rude du geôlier, tandis que derrière lui étincelaient à la lueur de la torche qu'il portait les hallebardes de 2 gardes de la prévôté. « Où voulez-vous donc me mener ?» demanda Jacques Aubry, dormant encore d'un œil. « Allons, allons, pas de raisonnement, et suivez-moi !» Toute résistance étant inutile, le prisonnier obéit. Le geôlier marcha devant, puis Jacques Aubry vint après, puis les 2 gardes fermèrent le cortège. Jacques Aubry regardait autour de lui avec une inquiétude qu'il ne cherchait même pas à dissimuler. Il craignait une exécution nocturne. Cependant, une chose le rassurait, il ne voyait ni prêtre ni bourreau. Au bout de 10 minutes, Jacques Aubry se retrouva dans la première salle où on l'avait conduit à son entrée au Châtelet, mais là, au lieu de le conduire au guichet, ce dont un instant il avait eu l'espérance, tant le malheur vous rend facile à l'illusion, son guide ouvrit une porte cachée dans un angle et s'engagea dans un corridor intérieur. Ce corridor donnait dans une cour. Le premier sentiment du prisonnier, en arrivant dans cette cour et en se trouvant à l'air, et en revoyant le ciel, fut de respirer à pleine poitrine. C'était autant de prix, il ne savait pas quand pareille aubaine se renouvellerait. Puis, comme il aperçut de l'autre côté de la cour les fenêtres en ogive d'une chapelle du XIVe siècle, il commença à deviner ce dont il était question. Notre véracité de conteur nous contraint à dire qu'à cette pensée, les forces faillirent lui manquer. Cependant, le souvenir d'Ascanio et de Colombe se présenta à son esprit, et la grandeur de la belle action qu'il allait accomplir le soutint dans sa détresse. Il s'avança donc d'un pas assez ferme vers l'église. En arrivant sur le seuil, tout lui fut expliqué. Le prêtre était à l'autel. Dans le chœur, une femme l'attendait. Cette femme, c'était Gervaise. À moitié chemin du chœur, il trouva le gouverneur du Châtelet. Vous avez demandé à rendre, avant de mourir, l'honneur à la jeune fille à qui vous l'aviez ravie, dit le gouverneur. La demande était juste et l'on vous l'accorde. Un nuage passa sur les yeux de l'écolier, mais il porta la main à la lettre de Madame d'Étampes et il reprit courage. « Oh, mon pauvre Jacques !» s'écria Gervaise en venant se jeter dans les bras de l'écolier. « Oh, qui m'aurait dit que cette heure que je désirais sonnerait dans une pareille circonstance ?»« Que veux-tu, ma chère Gervaise ?» s'écria l'écolier en la recevant sur sa poitrine. « Dieu sait ceux qu'il doit punir et ceux qu'il doit récompenser. Soumettons-nous à la volonté de Dieu. » Puis tout bas, en lui glissant dans la main la lettre de Madame d'Étampes, « Pour Benvenuto, dit-il, et à lui seul. » « Hein ?» murmura le gouverneur, s'approchant vivement des deux époux. « Qu'y a-t-il ? » ?»« Rien, je dis à Gervaise que je l'aime. » Comme elle n'aura, selon toute apparence, probablement pas le temps de s'apercevoir du contraire, les protestations sont inutiles. Approchez de l'hôtel et faites vite. » Aubry et Gervaise s'avancèrent sans souffler mot vers le prêtre qui les attendait. Arrivés en face de lui, tous deux tombèrent à genoux. La messe commença. Jacques aurait bien voulu échanger quelques paroles avec Gervaise, qui, de son côté, brûlait d'envie de peindre sa reconnaissance à Aubry, mais deux gardes placés à leur côté surveillaient leurs gestes et épiaient leurs paroles. Il était bien heureux que, dans un moment de compassion sans doute, le gouverneur les eût laissés échanger l'accolade à l'aide de laquelle la lettre était passée des mains de Jacques dans celles de Gervaise. Ce moment perdu, la surveillance exercée sur les deux époux eut rendu le dévouement de Jacques inutile. Sans doute le prêtre avait-il reçu des instructions, car il abrégea fort son discours. Peut-être aussi pensait-il, à part lui, qu'il était inutile de faire de grandes recommandations conjugales et paternelles à un homme qui allait être pendu dans 2 ou 3 jours. Le discours fini, la bénédiction donnée, la messe dite, Aubry et Gervaise crurent au moins qu'on allait leur laisser un moment en tête à tête, mais il n'en fut rien, malgré les pleurs de Gervaise qui fondaient littéralement en eau, les gardes les séparèrent. Cependant, ils eurent le temps d'échanger un coup d'œil, celui d'Aubry voulait dire « songe à ma commission », celui de Gervaise répondait « sois tranquille, elle sera faite cette nuit même ou demain au plus tard ». Puis on les entraîna chacun d'un côté opposé. Gervaise fut remise galamment à la porte de la rue, Jacques fut reconduit poliment à son cachot. En y entrant, l'écolier poussa un soupir plus profond qu'aucun de ceux qui l'eût poussé encore depuis son entrée dans la prison. Il était marié. Ce fut ainsi que, nouveau courtius, Jacques Aubry, par dévouement, se précipita dans le gouffre de l'Hyménée.